Quand le moment de l'accouchement arriva, il se confirma que Rebecca portait des jumeaux. Le premier qui parut était roux, le corps couvert de poils comme une fourrure. C'est pourquoi on l'appela Ésaü, le velu. Après, lui naquit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob, le talon. Isaac avait 60 ans au moment de leur naissance. Les deux garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur qui aimait courir les champs. Jacob était d'un caractère paisible et préférait se tenir dans les tentes. Isaac avait une préférence pour Ésaü, car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. Un jour, Jacob était en train de préparer une soupe quand Ésaü revint des champs épuisé. Il lui dit « Laisse-moi manger de ce roux-là, car je n'en peux plus, d'où le nom d'Édom, le roux, qu'on lui donna. » Mais Jacob lui dit « Alors, vends-moi aujourd'hui même ton droit de fils aîné. » Ésaü répondit « Je vais mourir de faim, que m'importe mon droit d'aînesse ?» Jacob insista « Promets-le-moi tout de suite par serment. » Ésaü lui prêta serment et lui vendit ainsi son droit d'aînesse. Là-dessus, Jacob lui servit du pain et de la soupe de lentilles. Ésaü mangea et but, puis se leva et s'en alla.
Et oui, nous continuons notre série sur le premier livre de la Bible, la Genèse, avec des histoires connues ou mal connues, la création, la rupture dans le jardin d'Éden, la rupture de relation avec Dieu, l'apparition de la violence avec Caïn et Abel, le déluge avec Noé, les promesses faites à Abraham et la foi d'Abraham, et puis le sacrifice ou la foi testée à l'épreuve du sacrifice, ça c'était dimanche dernier, avec le sacrifice d'Isaac. Des histoires qui nous parlent de l'action de Dieu en faveur des hommes qu'il a créés, et cela malgré leur faiblesse, malgré leur révolte parfois, leur violence. Et cette action de Dieu en faveur des hommes alors qu'ils ne le méritent pas, comme le disait Sylvie tout à l'heure, ça s'appelle la grâce. L'action de Dieu dans son amour et dans sa fidélité, dans sa constance, on pourrait même dire aujourd'hui avec le mot à la mode, dans sa résilience, Dieu aime toujours. Alors avec Abraham, cet exemple de foi, mais qui n'était pas tout à fait, pas toujours exemplaire, nous sommes rentrés dans ces personnages qu'on appelle les patriarches. Et aujourd'hui, nous allons faire connaissance ou refaire connaissance avec un autre patriarche, un deuxième patriarche. Et son histoire commence comme une télé-réalité dans une famille un petit peu compliquée. Un père permissif, une mère qui cherche à contrôler, un frère aîné toujours en vadrouille, et lui, un fils cadet, un chouïa manipulateur. Et vous l'avez lu tout à l'heure, on l'a lu tout à l'heure, je parle de Jacob. Ben oui, une famille un peu compliquée, avec Isaac, le père, qui, il faut le dire, est un peu transparent, avec Rebecca, la mère, qui est effectivement en plein contrôle, voire dominatrice, pour ne pas dire plus, et Ésaü, et il faut le dire, le type du gars qui regarde chasse, tradition et pêche, quoi, à la télé. Ésaü, le brut de décoffrage, ça c'est la famille de Jacob, et Jacob il est pas mal non plus. Dès sa naissance, il montre son caractère, il accroche le talon de son frère jumeau, qui était sorti en premier, et tout apparaît à la naissance. Le nom Jacob, dans sa racine, veut dire talon, à la fois talon, mais aussi trompeur. Et Jacob, toute sa vie, va chercher à supplanter, à usurper, et il fera tout pour prendre la place de l'autre. C'est l'histoire de Jacob, le trompeur. Et c'est congénital, on va dire. Ça apparaît dès la naissance, c'est étrange. Alors il va tromper son frère pour lui voler son droit d'aînesse avec ce fameux plat de lentilles. Il va tromper son père, vous connaissez peut-être l'histoire, sinon relisez-la, c'est extra, en se déguisant en Ésaü pour accaparer sur lui la bénédiction paternelle. Et il ment sur son identité avec un aplomb incroyable. Son père, qui ne voit plus grand-chose, lui demande plusieurs fois « C'est bien toi, Ésaü ?» Et Jacob répond à chaque fois « C'est bien moi, Ésaü. » Quel aplomb! Quelle usurpation d'identité, piratage de la page Facebook, ça peut coûter cher. Mais pour Jacob, ça semble être un mode de vie trompé. Il va aussi tromper son oncle Laban dans une sombre histoire de brebis et de moutons et de manipulation génétique, de faux et usage de faux, abus de biens pas sociaux mais familiaux. Bref, Jacob a fait toute une série de utilise toute une série de stratagèmes pour parvenir à avoir un grand troupeau aux dépens de Laban. Et il va dire à la fin, et ça c'est quand même une phrase extraordinaire, « Dieu m'a permis d'avoir un grand troupeau ». Alors qu'il a traficoté la nuit entière dans le troupeau pour avoir des résultats en sa faveur. Un fantastique comédien. Ou peut-être a-t-il fini par croire lui-même, par y croire lui-même, qu'il est devenu son propre rôle de trompeur, que ça lui colle tellement à la peau qu'il peut dire, après avoir traficoté, « Dieu m'a permis d'avoir un grand troupeau ». Alors Jacob, tout est faux un petit peu dans son histoire. Il a plusieurs facettes, tout est tromperie, le plat de lentilles, le déguisement en Ésaü, les brebis de Laban. J'aime bien cette image où on voit Ésaü et le plat de lentilles. Ésaü qui est pas futé, qui est pas très futé, qui est un peu basique dans l'histoire. Et puis le petit air sournois de Jacob. Pourtant, il y a un petit verset au début de son histoire. Après avoir menti sur son identité, il fuit la vengeance d'Ésaü parce que Ésaü cherche à se venger. Ben oui, Jacob lui a tout pris, son droit d'aînesse, la bénédiction du père. Ésaü va chercher à se venger. Et là, Jacob est en fuite et là, il rencontre une jeune bergère. Il l'embrasse. Mais c'est tout à fait normal dans les histoires d'amour qui se terminent toujours bien. Mais il ne fait que l'embrasser, mais il ne va pas faire que l'embrasser, il va faire à un moment, et là il nous semble voir la faille dans Jacob. Il va sangloter dans les bras de Rachel. Il va sangloter dans les bras de Rachel. Pourquoi ? Alors qu'il tombe amoureux d'elle, qu'il l'embrasse, il se met à pleurer. Moi, il me semble voir dans cet événement, dans ce moment, le fait qu'il craque. Il craque, Jacob, dans les bras de Rachel. Le masque du trompeur se fissure un petit peu, ça devient lourd à porter, et que l'amour d'une jeune femme, d'une jeune bergère de surcroît, fait tomber le masque et laisse apparaître les failles. Jacob sanglote dans les bras d'une jeune femme qui s'appelle Rachel et qui deviendra sa femme. Alors c'est beau, et c'est légèrement romantique, ou tout à fait romantique, mais Jacob continue en fait la comédie après. Tricheur, usurpateur, fourbe, retors. Et c'est ce que son nom veut dire, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Jacob, le trompeur, comme si son destin était tracé. Il est désespérément ce que son nom veut dire. Mais, évidemment, ce genre de comportement va avoir des conséquences, et ces conséquences, ce sont manifestement des conflits avec son père, des conflits avec son frère, des conflits avec son oncle, des conflits entre ses deux femmes, Rachel et Léa. Et qu'est-ce qu'on fait en cas de conflit ? Une des possibilités en cas de conflit, à part le résoudre, c'est de fuir. Et Jacob est un homme en fuite. Le problème, c'est quand il change d'endroit, il retrouve les mêmes conflits. S'il ne change pas de comportement, s'il ne change pas de mode d'entrer en relation avec les autres, il va de conflit en conflit. Et donc, congénitalement, Jacob est un homme de conflit, un homme en fuite. Pourtant, il est le fils d'Isaac. Il est le petit-fils d'Abraham, sa mère sait et lui a certainement dit qu'il est porteur des promesses de Dieu, qu'il est porteur de la bénédiction de Dieu. Mais bizarrement, il semble que cette bénédiction, ce choix de Dieu sur lui, ne lui fait aucun effet. Il semble que chez Jacob, on va dire le charnel, pour utiliser un vieux mot, mais l'humain trop humain, comme disait l'autre, Nietzsche, l'emporte régulièrement sur le spirituel. Il semble qu'il y ait en lui un autre conflit plus intérieur, celui du vieil homme, entre le vieil homme et l'homme renouvelé. Et le problème, en fait, chez lui, c'est celui de la grâce. Je lisais un livre il y a quelque temps sur Jacob et qui s'intitulait « Les démêlés d'un homme avec la grâce ». Il y a des hommes qui ont des démêlés avec la justice. Jacob a des démêlés avec la grâce. Il a des ennuis, il a des problèmes avec la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'il a du mal à admettre que Dieu veut agir dans sa vie, il a du mal à accepter le choix du Dieu, le choix gratuit du Dieu sur lui, du choix souverain de Dieu sur sa vie. Il a du mal à admettre la possibilité qu'il pourrait vivre dans une dépendance constante par rapport à Dieu. Il a du mal à admettre que Dieu pose sur lui un regard favorable. Il a des démêlés avec la grâce, Jacob. Il est tellement loin de tout cela. Et il préfère manifestement s'en sortir tout seul à utiliser des trucs, des astuces, des stratagèmes et des mensonges pour arriver à ses fins, quels que soient les moyens employés et les dégâts occasionnés. Oui, il y a éventuellement des promesses sur ma vie, se dit-il, Jacob, mais c'est à moi de provoquer le destin, c'est à moi de forcer le destin. Un type qui veut se faire tout seul, ça c'est Jacob. Alors on pourrait se poser la question avec Jacob, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Qu'est-ce qu'on va faire avec un garçon comme lui? Quelqu'un qui, dès sa naissance, montre des signes de comportement dangereux pour la société, pour son entourage et pour lui-même. Comment Jacob, avec un bagage si lourd, va-t-il pouvoir devenir utile dans l'histoire du salut de Dieu pour l'humanité, pour le monde? Et on se pose la question de savoir si on n'est pas avec Jacob en présence d'un cas désespéré, comme on en rencontre parfois, comme nous le sommes parfois, des cas désespérés. Moi, je me le dis de temps en temps, alors que je reproduis toujours les mêmes réactions aux mêmes stimuli, alors que je suis toujours dans mes mécanismes de défense habituels, je me dis, mais je suis un cas désespéré. Est-ce que je vais finir par changer ou bien, comme disent les Suisses alémaniques, ou bien, oh là, est-ce que je vais finir par changer ou bien, il me semble que nous sommes parfois des cas désespérés comme Jacob. Et la question qui va se poser, ce n'est pas la question du désespoir, heureusement, mais la question du changement. Jacob va-t-il changer? Dieu veut-il et va-t-il changer Jacob? Et la réponse est oui. Trois fois oui, parce que la grâce de Dieu, ce n'est pas simplement un regard bienveillant de Dieu que Dieu poserait sur nous et sur Jacob. Mais c'est aussi, la grâce de Dieu, c'est aussi une grâce transformante qui va transformer celui qui s'en approche, celui qui reçoit cette grâce et qui vit avec, qui change en profondeur. Oui, Dieu peut nous changer et Dieu veut nous changer. Et pour Jacob, je crois pouvoir discerner deux temps forts dans sa vie. Des moments où les choses vont changer, des moments pivots. Je ne sais pas si je peux encore utiliser ce mot-ci aujourd'hui avec l'âge pivot pour la retraite, mais c'est des moments pivots où les choses basculent. Alors on pourrait se demander à quel moment Jacob va-t-il se convertir? Mais ce serait un petit peu anachronique de parler de conversion à cette époque-là. Mais malgré tout, il va y avoir des changements par étapes successives et nous allons voir la première étape aujourd'hui et la deuxième étape dimanche prochain. Revenez dimanche pour la deuxième étape, mais voilà pour la première. Et donc ce premier virage, ce premier pivot, il survient quand Jacob fait ce qu'il sait faire et fait ce qu'il fait depuis le début, quand Jacob est en fuite. Il fuit Ésaü, qui veut le supprimer puisqu'il lui a tout pris. Et Jacob fuit pour aller loin chez un membre de sa famille. Il a déjà parcouru une centaine de kilomètres. Il est fatigué. Il s'endort la tête sur une pierre. Il se met à rêver. Et ce rêve, c'est le fameux rêve de l'échelle, l'échelle de Jacob ou de l'escalier. Et là, vous avez une belle image de Chagall, encore une fois, avec cette échelle de Jacob qui est, dans l'histoire juive, un événement important. Un escalier ou une échelle ou un escalier comme dans les ziggourats mésopotamiennes. De toute façon, quelque chose qui monte. Aujourd'hui, ça pourrait être un ascenseur Otis ou une autre marque. Mais en tout cas, quelque chose qui monte et qui signifie que Dieu est accessible. Que Dieu, par l'intermédiaire de ses anges ou de ses messagers, c'est la même chose, est en affaire avec les histoires de ce monde et avec l'histoire de Jacob. Jacob rêve que Dieu est proche de lui et qu'il veut intervenir dans son histoire. Pour Jacob, c'est le ciel qui s'ouvre. Jusqu'à ce point-là, Jacob avait fait sienne la philosophie du « aide-toi, le ciel t'aidera ». Je me souviens, dans un groupe de jeunes adultes chrétiens, on avait un temps de partage et un des jeunes avait dit « pour moi, mon verset préféré, c'est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Et on était là en disant « ce n'est pas dans la Bible ». Ça, c'est un verset pour les self-made men. Hein. « Aide-toi parce que le ciel t'aidera ». On n'est pas sûr, hein. Aide-toi d'abord. Fais tes trucs d'abord. On verra par la suite. Et pour l'instant, il était dans ce trip-là, on va dire. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et il estimait pouvoir attirer la bénédiction divine sur sa vie par son ingéniosité et ses efforts. Or voilà que Dieu lui montre une échelle vers le ciel, non pas dans un moment d'intense activité, mais dans son sommeil. Là, dans son sommeil, Jacob rencontre Dieu. Et Dieu rencontre Jacob. Et on va lire ensemble. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. » Vous remarquez que ce sont les mêmes promesses que pour Abraham. « Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ferai revenir vers cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai tout ce que je t'ai promis. » Et ce qui est remarquable, c'est de se rendre compte que Jacob ne cherche pas à rencontrer Dieu. Rencontrer Dieu était probablement la dernière chose à laquelle Jacob pensait. Ses pensées, c'était comment fuir mon frère, comment mettre des kilomètres entre lui et moi. Il pensait à ce qui pouvait l'attendre dans la maison du frère de sa mère, Laban. Et puis tout d'un coup, Dieu fait irruption dans le monde fermé, cloisonné de Jacob. Dieu ouvre le monde de Jacob et Jacob fait là une expérience tout à fait déterminante dans sa vie, qui est faite jusque-là de trucages et de tactiques. Il fait l'expérience de la grâce, parce que Dieu, comme ça, de but en blanc, lui dit « Je t'aime, je serai toujours avec toi ». Quoi que tu aies fait comme tromperie et de l'utilisation de des mensonges et de stratagèmes, je pose sur toi mon choix, lui dit Dieu. Et ta bénédiction, c'est la grâce. Alors qu'il ne la recherche pas du tout, comme dit le prophète Ésaïe au chapitre 65, « Je me suis laissé consulter par ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. » Alors c'est vrai qu'autre part dans la Bible, Dieu dit qu'il se révèle à ceux qui le cherchent, mais ici, il n'est pas question de recherche préalable de l'homme. Dieu se révèle gracieusement, tout à fait gratuitement. Il ouvre son ciel à des gens qui ne cherchent pas à s'ouvrir au ciel. C'est un peu troublant quand même. Mais à la fois, c'est rassurant, c'est sécurisant de savoir que Dieu n'a pas besoin de ma recherche pour m'ouvrir le ciel. Que je peux être touché par la grâce. Bien sûr, il y a des ouvertures, il y a des choses à faire, c'est l'accepter. Mais je peux être touché par la grâce, encore aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que, vous savez, Jésus a repris, s'est identifié, non pas à ce récit, mais à l'objet du récit. Il s'est identifié à l'échelle de Jacob. Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, dit « Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. » C'est lui le Fils de l'homme. Et c'est Jésus qui parle. « Vous verrez ces anges monter et descendre. » Parce que c'est lui qui fait l'intermédiaire. C'est lui, c'est en lui, avec lui, que le ciel s'ouvre, que l'accès à Dieu est ouvert, que Dieu nous touche par sa grâce et dans sa grâce, en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ, Jésus, c'est en Jésus-Christ que toutes nos tactiques, tous nos mécanismes de défense à la noix, tous nos trucs pour nous en sortir, notre débrouillardise légendaire s'écroule comme la tour de Babel. C'est en lui que l'on peut dire « oui, je viens ». Et je dépose tout ce qui est fake en moi pour que tu puisses me pénétrer de ta grâce et qu'en toi je trouve le pardon et toute la valeur à tes yeux. Il y a quelqu'un qui parlait de l'attraction formidable de la grâce. L'attraction formidable de la grâce, je ne sais pas si vous avez fait comme moi quand j'étais adolescent, jouer avec un aimant et des trombones. Sur votre cahier de physique ou de sciences naturelles, avec l'aimant, pop, 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 on attrapait toutes les trombones. Ça pouvait durer des heures, en écoutant d'une oreille distraite le professeur. La grâce de Dieu attire tout à elle, et toutes les fibres de mon être sont touchées au plus profond de moi, comme elle a touché Jacob, qui, du coup, va construire un petit hôtel. Un petit hôtel particulier, et à qui il donnera le nom de Bethel. Jacob s'éveilla de son rêve, de l'échelle, et s'écria « Assurément, l'Éternel est en ce lieu, et moi je l'ignorais. » J'ignorais tout de Dieu. Et là, je découvre qu'il est là, dans ma vie. Il fut saisi de crainte et ajouta « Ce lieu est redoutable. » Ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Le lendemain de grand matin, il prit la pierre sur laquelle il avait reposé sa tête pour dormir. Il dressa en stèle et répandit de l'huile sur son sommet. Il l'appela cet endroit Bethel, la maison de l'Éternel. Beth, maison, El, Éternel. Puis, je continue, puis il fit le vœu suivant, c'est le deuxième paragraphe. « Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu, et je t'offrirai le dixième de tous les biens que tu m'accorderas. » La maison de Dieu. Et il dira, lui, l'humain, le charnel, lui qui ne parlait jamais de Dieu auparavant, il va dire, assurément, l'Éternel est en ce lieu et moi, je l'ignorais. Et il ajoute, ce lieu est redoutable, ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu, c'est ici la porte du ciel. Et il me semble que nous assistons ici à un tournant dans la vie de Jacob, une rencontre qui change beaucoup de choses dans sa tête de sournois. Il y a un autre signe de changement, c'est pour la première fois, Jacob envisage que le Dieu de son père et de son grand-père, Isaac et Abraham, soit aussi son Dieu. En Genèse 27, 10, en parlant de son père Isaac, il dit « L'Éternel, ton Dieu ». Mais au chapitre 28, au verset 20-21, je précise, il emploie par deux fois le pronom possessif « mon Dieu ». Le passage d'une relation à Dieu par procuration à une relation personnelle avec le Dieu vivant. C'est pas mon père. C'est pas le Dieu de mon père, c'est pas le Dieu de ma sœur, c'est pas le Dieu de mon frère, pas ma sœur. Mais c'est moi qui me tiens devant toi aujourd'hui, comme le dit le gospel. Not my sister, not my brother, but it's me, oh Lord, standing in need of prayer. C'est moi, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est pas mon frère, c'est pas ma sœur. Une relation personnelle avec le Dieu. Et un passage qui nous fait penser à ces enfants issus de familles chrétiennes et à ce moment crucial où la foi passe de la confiance que l'on fait à ses parents en matière de foi à une foi vécue et assumée de manière personnelle. Et c'est un passage toujours délicat. Et les parents doivent aider en laissant des ailes un petit peu à leurs enfants en matière de foi à un moment. On peut dire qu'à Bethel, Jacob passe à une foi adulte, mais il reste malgré tout du chemin à faire puisqu'il emploie, et j'ai insisté là-dessus sur dans la lecture, le conditionnel. Si Dieu me garde, si Dieu est avec moi, s'il me protège, s'il me fournit de quoi manger, si je reviens sain, c'est extraordinaire. Quelle toupée encore. On a l'impression que le vieux Jacob revient sur le devant de la scène. Si, il y a des bémols, il y a encore du chemin à faire. Il y aura bien d'autres événements pour amener Jacob à changer, et on le verra dimanche prochain. Mais pour l'instant, on peut retenir deux ou trois choses qui pourraient nous être utiles. Trois réflexions jacobiennes, pas jacobines, parce que ça c'est la Révolution française avec les jacobins, mais jacobiennes, avec Jacob. Et la première de ces réflexions, c'est de pouvoir se dire « Dieu ne désespère jamais de nous ». Dieu ne désespère jamais ni de moi, ni de toi. J'ai beau avoir des pensées tordues, des comportements bizarres qui se répètent, je ne suis pas un cas désespéré pour Dieu. Il vient me toucher de sa grâce pour me renouveler. Et donc si je... Il peut le faire, et il veut le faire surtout. Et donc si je ne suis pas un cas désespéré pour Dieu, eh bien, nous ne devons pas désespérer de nous-mêmes. Alléluia. Et si je m'arrêtais là, ce serait un petit peu de la psychologie à trois balles. Excusez-moi, de la thérapie de groupe un peu facile. Vous êtes formidable, vous n'êtes pas un cas désespéré. Alléluia. Comme un peu le sketch de Danny Boone, je vais bien, alors que tout va mal. Hein, vous savez, la méthode Coué ou la thérapie. Il s'agit effectivement de ne pas désespérer de nous-mêmes, mais aussi de laisser à Dieu la possibilité de nous changer. Laisser tomber nos petits trucs et nos mécanismes de défense, et on pourrait utiliser un mot à la mode, hein, le lâcher-prise. Lâcher-prise sur nos fuites et nos petits stratagèmes pour nous laisser changer par Dieu, parce que c'est son projet, parce que c'est bibliquement son projet, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu, son projet pour nous, c'est la sanctification, pour utiliser ce mot qui fait parfois peur, la sanctification, c'est-à-dire se transformer de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. J'ai une amie à Pau qui disait cette phrase si belle. Dieu nous aime assez pour nous accueillir tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Dieu nous aime assez pour nous accueillir tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Dieu veut nous changer et nous faire devenir toujours plus comme son Fils Jésus-Christ. Mais il faut savoir que le changement peut être parfois douloureux, et il sera douloureux pour Jacob. La croissance fait mal. En kiné, on parle du genou osgood. Vous savez ce que c'est, osgood ? C'est le docteur qui a trouvé cette maladie, osgood, mais c'est le problème pour les adolescents, et surtout chez les footballeurs. Vous savez, les garçons grandissent de 10 cm en 6 mois. Et le problème, c'est que les os grandissent, mais que les tendons ne suivent pas. Et donc il y a des douleurs énormes. Et beaucoup de jeunes fouteux doivent arrêter pendant un an, parce que la croissance fait mal. Parce que changer fait mal. Changer fait un peu souffrir aux articulations, et il faut le savoir. Je ne sais pas si on est toujours prêt à cela. Et puis troisièmement, on nous invite à ne pas désespérer des autres, non plus. On a parlé du regard que Dieu pose sur nous, mais il y a aussi ce regard que nous posons sur les autres. Et ce regard est souvent celui du jugement. Oh, celui-là, il est vraiment trop loin. Oh, celui-là, il est vraiment trop perdu. Ou celui-là, c'est vraiment un cas désespéré. Et on le fait souvent avec des gens qui nous sont proches. Je parlais avec une dame un jour, une mère de famille, qui m'a dit tout le mal qu'elle pensait de ses enfants. Il n'y en avait pas un pour racheter l'autre. Et comme elle les décrivait, c'était vraiment des cas désespérés. Alors, connaissant un peu les enfants, je savais que ce n'étaient pas des enfants de cœur, mais ils semblaient condamnés à rester des cas désespérés dans le regard de leur mère. Et je ne veux pas juger cette maman qui avait certainement ses raisons et des circonstances particulières, mais comme elle, il me semble qu'on a vite fait de mettre des gens dans des catégories ou dans des boîtes et on les condamne à le rester ou à rester dans ces boîtes et ces catégories. Mais Jésus, dans une comparaison que bien connue, nous dit de ne pas regarder à la paille qui est dans la vie de l'autre ou dans l'œil de l'autre, mais de ne pas le faire avant d'avoir enlevé la poutre qui est dans notre œil. Et cette poutre qui est dans notre œil, c'est pas n'importe quel problème, c'est pas n'importe quel péché, on va dire. C'est le problème du jugement, la poutre qui est dans mon œil, c'est le problème du jugement qui est dans ma vie, de ce regard que je porte sur l'autre, que je condamne à rester un cas désespéré. Toi, tu es un cas désespéré. Si Dieu n'a pas désespéré de Jacob, s'il ne désespère pas de moi, il ne désespère pas non plus de ceux qui m'entourent. Et pour nous aider, on pourrait penser au Notre Père. Vous savez, au Notre Père, dans le Notre Père, où nous disons « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », il y a une relation de cause à effet, de cohérence entre le pardon de l'autre et le pardon que je reçois de Dieu. On pourrait le transposer et dire « aide-nous à ne pas désespérer des autres comme toi Seigneur, tu ne désespères jamais de nous. » Aide-nous à ne pas désespérer de notre entourage comme toi Seigneur, tu ne désespères jamais de moi. En conclusion, et pour rester dans cette dynamique d'espérance et de grâce, je propose de faire comme Jacob. D'ériger une stèle avec la pierre sur laquelle on a dormi, mais d'ériger une sorte de Bethel, une maison de Dieu, ou plutôt un cairn. C'est fantastique les cairns en montagne. D'ériger et puis de l'ériger et de revenir quand on se perd sur les chemins de traverse ou sur les raccourcis qu'on a voulu prendre et puis qui ne mènent nulle part. Vous connaissez ces raccourcis que dont les hommes ont le secret et qui font perdre toute la famille. Mais ériger un cairn, c'est ce que va faire Jacob un petit peu plus tard, c'est revenir à Bethel. Quand il aura encore plus de problèmes avec Ésaü, il va retourner là où il a eu son rêve, à Bethel. Il va revoir cette pierre et il va se souvenir, oui, Dieu est présent dans ma vie, sa bénédiction continue d'être sur moi. Il va revenir à l'endroit où il a rêvé d'une échelle qui le menait à Dieu, avec ce ciel ouvert. Il va revenir à Bethel, à la maison de Dieu. Et ces cairns, il y en a beaucoup dans les Pyrénées, parce que c'est des chemins très difficiles, et puis il y a des endroits où il n'y a que des pierres, donc il n'y a pas de chemin possible. Et là, on voit les cairns. Et dans la brume, c'est important de voir les cairns. Et quand on se perd, qu'est-ce qu'on fait? On peut se dire, bon, je continue droit devant, je fais confiance à mon sens de l'orientation, ou on revient au dernier cairn, là où on avait le bon chemin. Et de temps en temps, dans notre cheminement, en tant que chrétien, ou pour ceux qui cherchent Dieu, revenir à des moments de la vie où Dieu était vraiment présent pour se dire « oui, il était là ». Et il l'est toujours. Un cairn, c'est un repère qui nous signale, nous indique, nous rappelle que malgré nos égarements, Dieu ne désespère jamais de nous. Amen.